Je laisse la parole à Isabelle Saint-Martin, historienne de l'art.
Merci. J'ai été présentée comme historienne de l'art, mais je m'empresse de préciser que mon domaine de spécialité, c'est le 19e, 20e. Je suis donc assez loin de mes terres avec la chapelle Sixtine. Et je crois que si Rita Hermont-Belot, que je remercie de m'avoir invitée à participer à cette discussion, a pensé à moi, c'est peut-être plus à propos d'un petit travail que j'avais fait il y a quelques années sur la représentation des Juifs dans la catéchèse chrétienne. Et évidemment, c'est un des sujets qui m'intéressait tout particulièrement. Lorsque j'ai entendu pour la première fois pour moi Giovanni Carreri présenter son travail, c'était lors du colloque Anthropologie et Histoire de l'Art au Quai Branly, il y a 5 ou 6 ans, je crois. Et je l'ai ensuite réentendu à différentes occasions et pu voir à quel point ce livre est vraiment le résultat d'une pensée en mouvement, d'une pensée qui a travaillé et repris véritablement avec une science justement de faire penser les images ensemble et de penser avec, qui est extrêmement intéressante. Ma première réaction, je me souviens en vous écoutant sur ce sujet, était un grand moment de surprise, parce que quand on a travaillé justement sur la représentation des Juifs dans la catéchèse chrétienne, les ancêtres du Christ, ils sont complètement christianisés. Cette greffe que vous exposez très bien de la lecture typologique, cette réappropriation, cette réécriture de l'histoire qui fait que les chrétiens lisent les premières pages de la Genèse, tout le Pentateuque, comme leur histoire et qui se traduit plastiquement dans toute l'iconographie chrétienne. Et peut-être la démonstration la plus probante, c'est tous ces manuscrits qui nous présentent la création du monde avec une figure du créateur nimbé, christique, jeune et barbu, ou alors le Christ apparaissant dans le buisson ardent. Toutes ces façons de réintégrer complètement l'histoire des premiers temps du peuple hébreu, des premiers temps de la Torah, de la Bible, dans l'histoire chrétienne. Et là, il y a effectivement une altérité. Là, Michel-Ange a fait quelque chose de différent et qui trouble complètement la perception qu'on peut avoir de ses ancêtres du Christ. Et ça m'a fait penser à quelque chose, non pas totalement d'invu, ou d'inouï, comme on dit, inouï. Giovanni Carreri dit bien qu'il n'est pas, qu'il n'a pas le premier à l'avoir remarqué. D'autres historiens de l'art ont proposé des interprétations sur ses ancêtres du Christ. Et j'ai beaucoup aimé trouver dans le livre cette citation de Zola, en 1896, qui voit dans les cintres, dans les lunettes, des figures de beauté, de puissance et de grâce, les ancêtres du Christ, etc., les hommes au regard lointain, fixés sur l'avenir, la race punie, lasse, désireuse du sauveur promis. Il y a vraiment, peut-être Zola est le premier à l'avoir vu comme vous l'avez vu, parce que d'autres historiens de l'art ont donné des interprétations, mais ponctuelles et partielles, de cet élément qui, il faut quand même l'avouer, quand on visite en tant que touriste, la chapelle Sixtine n'est pas ce que l'on regarde en premier, les lunettes avec les ancêtres du Christ. Et là, le renversement que propose ici Giovanni Carreri, c'est d'en faire un élément justement structurant de la lecture de la chapelle. Ça m'a évidemment fait penser, peut-être faut-il l'évoquer aussi ici, aux travaux de Daniel Arras sur le détail et à la façon dont, à partir d'un petit détail pas encore vu ou pas encore souligné, il réintégrait cela, et ça me rappelle mes souvenirs de ses cours à l'étage au-dessus. Alors, donc cette altérité des ancêtres qui bouleverse complètement les choses, moi je ne la retrouve pas, et mon intervention, comme vous l'avez compris, sera beaucoup plus égoïste que celle de mon prédécesseur. J'essaye de juste montrer en quoi la lecture de ce livre m'a fait penser sur les travaux et les domaines que j'étudie. Et donc je ne la retrouve pas justement dans la catéchèse chrétienne qui suit, parce que ce qui va au contraire être à chaque fois accentué, c'est cette appropriation des ancêtres, la différence avec les Juifs du temps de Jésus, et au contraire, une sorte de continuum qui va se faire entre les Juifs du temps de Jésus et les Juifs de nos jours, qui peut donner, dans la catéchèse des années 30, des allusions antisémites que vous pouvez imaginer, mais c'est pas le propos, et je ne vais pas dériver sur ces sujets-là. Restons dans les représentations et dans la Sixtine. Je crois qu'un tournant majeur, quand même, de la réflexion dans ce livre, c'est l'intégration de Joseph. Et là, je l'ai entendu après. Alors, je ne sais pas si votre pensée a mûri sur cette question, quand est arrivé Joseph, mais c'est vraiment un retournement fondamental pour la compréhension et l'analyse de ses ancêtres. Et ce qui me paraît intéressant, parce que c'est extrêmement probant de voir comment la figure de Joseph, attachée à des tâches matérielles, ne comprenant pas, passant à côté de ce qui se passe dans la nativité, dans certains tableaux nordiques des années du 15e, peuvent être rapprochés avec cette figuration des ancêtres. Et il va y avoir là aussi un retournement, et je pense que analyser la Sixtine comme cela, ça devrait donner à penser à ceux qui travaillent aussi sur la figure de Joseph, puisque contemporain des premiers moments de la Sixtine, naissance de Thérèse d'Avila en 1515 ou 1519, je ne sais plus très bien. Et Thérèse d'Avila va largement contribuer à complètement revoir et redonner une autre spiritualité à la figure de Joseph qu'on retrouve aussi ensuite au XVIIe dans la spiritualité de l'école chrétienne. Et quand je pense à des tableaux comme de Zurbarán ou de la peinture espagnole où Joseph est une sorte de modèle christique, eh bien on se dit qu'il va falloir là, retravailler les choses et aussi essayer de penser ce rapport de Joseph à la question des ancêtres du Christ. Voilà mes premiers points et mes premiers moments de réflexion sur cette prise en compte de l'altérité qui est indéniable et dont j'aimerais savoir un peu davantage si c'est vraiment un apax du temps, si, à quel point Michel-Ange a innové ici ou si vous avez trouvé dans votre recherche d'autres exemples. Alors, après, mes propres intérêts étant sur la lecture du goût et de la réappropriation, la réécriture de l'histoire de l'art dans le monde catholique, j'ai été évidemment extrêmement intéressée par tout le chapitre sur le jugement dernier, et qui est évidemment un des, entre guillemets, chefs-d'œuvre de l'art chrétien, mais de l'art chrétien lequel ? De l'art chrétien jusqu'où ? La réception par le pape est bonne, la réception est très élogieuse par certains, mais déjà, et vous l'analysez, des théologiens, Giglio, Paleotti, vont relever les erreurs, les écarts par rapport à la pensée de la représentation du jugement dernier, et surtout, vous mettez en évidence une sorte de théologie qui n'est pas hérétique, mais qui est à la marge, qui est celle des spirituali, et qui est en même temps une vraie théologie. Donc, je suis un peu confuse, mais je viens à mon propos. Vasari en fait un éloge, mais un éloge qui va être repris en sens inverse, puisqu'il insiste sur cette terreur, sur ce bras terrible, sur cet Apollon qui condamne. Et ensuite, au XVIIe, vous l'évoquez, les débats sont très vifs sur ce jugement dernier de Michel-Ange. Et pour la période qui m'intéresse plus particulièrement, au moment où se définissent des théories de l'art chrétien au XIXe siècle, un de ses plus grands théoriciens, Alexis-François Riault, qui commence une analyse de l'art chrétien dans les années 1830, qu'il va publier en plusieurs volumes tout au long du XIXe, se félicite, lui, quand il a visité la Sixtine dans les années 30, de ne pas avoir succombé à la manie que Chateaubriand avait encore lorsqu'il ne voit dans la Sixtine que le jugement dernier, et lui, au contraire, redécouvre le Pérugin, redécouvre les primitifs italiens, et considère que le jugement dernier, tout comme la transfiguration de Raphaël, c'est le début de la décadence, c'est la fin de l'art chrétien. Il a un jugement qui m'a quand même paru, justement, après vous avoir lu, assez intéressant, puisque malgré tout, et contrairement à ces épigones qui après jetteront vraiment Michel-Ange et le jugement dernier aux enfers de l'art chrétien, malgré tout, il ne peut se défendre de l'admirer. Mais il dit « Jamais le spectateur qui a vu les tableaux où Fra Angelico da Fiesole a traité le même sujet ne pourra se réconcilier ni avec la figure du Christ, si difficile à caractériser, ni avec les saints personnages qui l'entourent et auxquels l'artiste a cru devoir donner, à défaut d'auréole, des proportions énormes, non pas en vue de la perspective, mais en vue de leur glorification. » Et on dirait qu'il comprend quand même, dans votre analyse, quelque chose de cette incorporation. Et il ajoute « C'était une apothéose d'un genre nouveau qui ne ressemblait pas à l'apothéose païenne, alors que c'est la critique qu'on a toujours faite à cette apothéose d'être païenne, mais qu'on aurait bien pu appeler une apothéose charnelle. » Donc voilà une apothéose charnelle, ce qui est évidemment une critique à ses yeux, puisque l'art chrétien ne doit pas être charnel à l'époque dans cette théorie. C'est un art purifié, un art au contraire de la ligne. Et les seuls au XIXe siècle, Là, je me suis située dans la réception critique catholique, évidemment. Les seuls à défendre une position religieuse de Michel-Ange à deux extrêmes, il y a d'abord Stendhal, d'un point de vue extrêmement critique, qui considère que la religion est la cause unique du dur, du laid, que les sots reprennent dans Michel-Ange. Et dans le jugement dernier, ce qu'il lui reproche, finalement, c'est le malheur de Michel-Ange d'avoir été ici influencé par Savonarole et par la religion. Et puis, la critique du protestant Athanase Coquerel, qui lui aussi est sensible à l'originalité des thèses dans le jugement dernier, et qui, du coup, voit en Michel-Ange presque un protestant, parce qu'il a su s'émanciper des doctrines de l'Église. Mais globalement, et je vais... on conclura avec ça. Globalement, on a une sorte d'exclusion progressive dans les discours sur l'art religieux tout au long de ce siècle, d'abord de la Renaissance italienne d'une certaine manière, justement pour son côté charnel, et avec quelques œuvres qui condensent les critiques, et parmi lesquelles le jugement dernier, où sont reconduits les propos de Vasari et de Giglio, mais avec une critique qui change un petit peu de nature, puisque la critique là n'est pas tellement iconographique, c'est une critique qui prend l'art en tant qu'art, comme élément de la définition de l'art chrétien, et c'est par son style, par cette musculature, Rio dit, on dirait qu'il invente des muscles même, carrément, et c'est par cette capacité à faire vivant, à faire beau, à faire vivre, qu'il s'écarte de ce qu'on essaie à cette époque de définir comme l'art chrétien. Alors il faudrait écrire l'histoire d'une réintégration, puisque le dernier discours aux artistes qui a été prononcé par un pape, c'est-à-dire Benoît XVI, ce dernier discours qui, comme la plupart de ces discours pontificaux, se tient dans la chapelle Sixtine, consacre, dans un texte qui fait 2 ou 3 pages, une bonne dizaine de lignes au jugement dernier de Michel-Ange, alors que on pourrait insister et souligner, montrer les affinités plutôt de Benoît XVI avec l'art de l'icône, avec la tendance de l'art byzantin. Et on a encore aujourd'hui bien des jugements, bien des avis qui considèrent que justement ce jugement dernier est éloigné de la pureté de l'art chrétien. Et bien, le pape Benoît XVI précise que une des créations les plus extraordinaires de toute l'histoire de l'art. Le jugement dernier qui trône derrière moi, c'est lui qui parle évidemment, rappelle que l'histoire de l'humanité est mouvement et ascension, est une tension inépuisable vers la plénitude, vers le bonheur ultime, vers un horizon qui dépasse toujours le présent alors qu'il le traverse. Cependant, son caractère dramatique, cette fresque place également devant nos yeux le danger de la chute définitive de l'homme, une menace qui pèse sur l'humanité. J'abrège, la fresque lance cependant un cri prophétique puissant contre le mal, contre toute forme d'injustice.
Alors si Isabelle Saint-Martin, qui est historienne de l'art chrétien du 19e, 20e, a éprouvé le besoin de dire qu'elle se sentait pas forcément légitime pour intervenir à propos de ce livre, qu'est-ce que je vais devoir dire, moi qui suis sociologue des religions et du religieux contemporain? Là, ma position devient extrêmement compliquée. Je dois dire que quand la proposition de Rita de participer à ce débat m'est venue, j'y ai d'abord vu, et c'est pour ça que j'ai répondu spontanément, j'y ai d'abord vu une excellente occasion de dire publiquement à Giovanni la gratitude que je lui avais d'un livre qui, personnellement, m'a donné un bonheur de lecture rare, à quel point, en lisant pour une première fois, comme un roman, ce livre, je me suis laissée porter par cette intrigue qui se dénoue progressivement à partir de la question de la présence incongrue des ancêtres du Christ dans cette immense récapitulation des temps que donne à voir la Sixtine. Et puis, j'en ai fait une deuxième lecture. Une deuxième lecture et dans laquelle j'ai pris la mesure de la clé d'intelligibilité que cette lecture de Giovanni pouvait offrir pour une série de problèmes qui travaillent des approches historiques, anthropologiques ou sociologiques de l'expérience chrétienne de façon beaucoup plus large. Alors, ce qui m'a, si je reviens à mon expérience de lecteur, et après tout c'est celle-là que je peux mettre en avant, je voudrais dire à quel point j'ai éprouvé en lisant ce livre un sentiment assez jubilatoire de voir se mettre en place, un peu miraculeusement, les pièces comme les pièces d'un puzzle. qui rassemblait qui permettait de tirer les fils de toute une série de questions qui, moi, comme sociologue des religions, me passionnent, comme la question de l'utopie chrétienne, la question de la conversion, ou la question de la formation de la lignée croyante. Ces différents fils pouvaient très facilement être reliés à travers cette lecture de la Sixtine. Alors, ce jugement de la Sixtine, comme beaucoup, je croyais l'avoir vu, c'est-à-dire que je l'avais inscrit avec beaucoup d'autres représentations de la même scène dans la grande galerie des images chrétiennes du moment où l'histoire est supposée se clore avec la séparation ultime des élus, ceux qui accèdent à la vision béatifique, et puis des derniers auxquels elle est refusée. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, le livre nous offrait véritablement une autre façon de voir. Une autre façon de voir qui consiste à ressaisir ce jugement à partir de ce moment ultime, à le ressaisir à partir du double mouvement qui le précède et le détermine, le mouvement ou le processus de fabrication de la ressemblance, quelle sorte de formation de la ressemblance, de conformation au Christ des élus qui tournent sur eux-mêmes en s'élevant, symétriquement en quelque sorte, et à l'envers, le processus de dissemblance qui affecte les seconds, les damnés, qui s'écartent, qui s'éloignent de la figure du Christ et sont emportés vers le bas. Et cette approche en termes de mouvement offre une toute autre façon de comprendre la scène du jugement lui-même. Ce n'est plus une scène de justice figée, qui fixe des hiérarchies, qui place les gens sur une échelle de hiérarchique, mais le jugement lui-même devient un champ de force. Et un champ, c'est le mot que tu emploies d'ailleurs, le jugement est un champ de force. Le jugement polarise en fait ce double mouvement en même temps qu'il y met fin. Et c'est ça qui me paraît très intéressant. Il ne fait pas tomber un coup près. Il est il valide une opération de transformation rendue accessible par la résurrection du Christ lui-même à chaque homme. Et il acte en même temps que le refus de cette transformation est possible, puisqu'il est donné à voir dans l'aspiration des damnés par le bas. Alors cette perspective dynamique joue inséparablement, et c'est ça qui est absolument fascinant, sur le terrain de la validation de la conversion, avec le processus de subjectivation qu'il induit, et qui a été souligné dans l'exposé de Giovanni, et puis sur celui de la concaténation des passés, dans lesquels s'inscrit l'entièreté de la geste du salut. Et cette double perspective, celle qui est pilotée par la conversion et celle qui est pilotée par la récapitulation des temps, elle ordonne l'ensemble des fresques de la chapelle autour du jugement qui aimante ces différents mouvements. Alors, des mouvements dont, c'est ce qui m'a le plus passionné et que je considère comme la clé pour moi, de l'approche offerte par Giovanni, c'est des mouvements qui sont captés ici dans le moment ultime de leur convergence. Et là, d'ailleurs, l'inspiration joachimiste de Michel-Ange est évidemment perceptible. Ils sont saisis dans une imminence. On n'est pas placé dans le jugement lui-même, on est placé, comment dire, dans un juste avant, qui précède immédiatement la clôture finale du temps, mais qui retient en même temps cette clôture, cet achèvement. On est dans un suspens. Et ce suspens, pour moi, il est très, très bien commenté dans ton analyse de ce geste par lequel Pierre remet les clés à Jésus. Mais il est là, il tient les clés, il va les remettre, on retient son souffle, hein, il va les remettre, et à ce moment-là, on est en suspens entre le temps de l'Église de la Terre et le temps de l'accomplissement de l'Église corps du Christ. On est exactement en suspens. Ce moment et c'est là que, comme sociologue, je me suis rendu compte qu'il y avait une extraordinaire fécondité à se placer de ce point de vue, à partir de ce suspens, pour identifier la manière dont se réalise l'inscription de l'expérience chrétienne, celle de l'individu aussi bien que celle du peuple, dans une histoire qui est à la fois et paradoxalement, irrésistible et toujours retardé, différé, mais néanmoins irrésistible. Et là, bien entendu, moi, j'ai retrouvé toutes les passions pour l'utopie chrétienne et l'utopie juive, les deux choses étant inséparablement liées, que je partage avec mon ami Michael, qui est ici. Et ici, de ce point de vue-là, la figure des ancêtres du Christ, elle est particulièrement essentielle, puisque c'est elle qui porte, dans le moment précis, évidemment, d'une montée de l'antijudaïsme qui en commande la représentation, c'est clair, elle commande, elle rend intelligible aussi ce moment de suspens. Les ancêtres sont les supports nécessaires de l'histoire chrétienne, puisqu'ils sont essentiels à la formation de la lignée. Sans eux, il n'y a pas de lignée chrétienne, non plus. Mais, en même temps, ils retardent cette histoire en s'installant dans le moment du suspens. Et dans une inertie qui, bien entendu, dans la figuration, vaut abaissement. Mais pourtant, dans cet abaissement même, quelque chose continue de se dire d'un potentiel de conversion qui maintient la trajectoire ouverte. Et c'est ça qui me paraît tout à fait intéressant. Ils ne sont pas les damnés. Ils sont ailleurs. La trajectoire reste ouverte. Évidemment, si j'ai été sensible particulièrement à cet aspect des choses, c'est tout simplement que je suis actuellement on réfléchit toujours à partir du lieu sur lequel on travaille soi-même. C'est que je travaille actuellement sur un dossier monastique qui m'a fait largement rencontrer cette fameuse question de la cédille. La torpeur des ancêtres, elle fait directement référence, et d'ailleurs Giovanni en parle beaucoup, à l'assédie, fléau monastique par excellence, mais qui est devenue très vite l'expression la plus intense de l'épreuve du chrétien. De quoi s'agit-il ? Chez les auteurs anciens et médiévaux, l'assédie fait l'objet d'une double description. Il y a d'un côté le moine agité. Le moine qui est aspiré par le temps du monde, le moine qui court sans cesse en dehors de sa cellule, qui ne tient pas en place, qui est incapable d'entrer dans le tempo de la vie monastique. Puis il y a une autre description, et cette description elle est bien plus mystérieuse et bien plus intéressante, et c'est elle le cœur du problème, et elle n'est pas décrite en termes de péché, alors que tout ce qu'on raconte sur le moine qui court hors de sa cellule, c'est de l'ordre de la... Bon, il commet des tas de manquements à la règle, tout ce qu'on veut. Bon. Mais dans la seconde description, qui vraiment, chez Cassien, par exemple, est présentée comme un symptôme. C'est pas un péché, c'est un symptôme, c'est une maladie. Alors certes, Cassien était médecin lui-même, mais quand même, il évoque quoi ? Il évoque la somnolence, la fatigue, on a vu sur les images, c'est frappant, la tristesse, le manque de goût, le manque d'appétit, on dirait la boulie ou la dépression. Et l'assédie, elle est expressément définie par Alain de Lille, elle est expressément définie comme torpeur de l'esprit. Ce que saint Thomas, lui, va condenser dans une formule tout à fait formidable, à mon avis. L'assédie, c'est le dégoût d'agir. Eh bien, les ancêtres qui sont là, ils sont dans une sorte de dégoût d'agir. Ils n'entrent pas dans le mouvement. Alors, saint Thomas dit bien que c'est un mal gravissime, hein, mais pas sans recours. C'est-à-dire qu'il secrète son propre antidote dans la nostalgie même de l'espérance qu'il suscite. Et le dépassement, évidemment, dans la problématique chrétienne, est rendu possible par l'incarnation, puisque le Christ, dans son humanité, rétablit la possibilité du mouvement. Mais il y a donc quelque chose d'une réversibilité qui demeure de la torpeur. Et évidemment, c'est là que la figure de Joseph est particulièrement intéressante, puisque Joseph, il en sort de la torpeur. Il va finir par la rejoindre, cette fameuse sainte famille. Bon, il a un peu de mal, ça peut se comprendre. Bon. Mais les ancêtres, certes, ils demeurent figés, mais quelque chose demeure dans cette présence somnolente et fatiguée. Quelque chose demeure de la possibilité d'une réactivation de l'espérance comme telle. Et je pense qu'il y a là une figure absolument fascinante d'une condition chrétienne qui s'éprouve comme structurellement incertaine. On retrouve là la torpeur, on peut employer le mot, qui saisit dans la grande galaxie des prémillénaristes ceux qui attendent indéfiniment la venue du royaume. eux aussi, et c'est une immense galaxie de personnages qui jalonnent l'histoire chrétienne jusqu'à nos jours, qui attendent la venue du royaume. Et elle s'éprouve finalement dans les récits mystiques, dans la traversée de ces moments d'incertitude, de troubles, de nuit, etc. Elle se joue dans l'expérience incertaine de Michel-Ange lui-même, qui ne sait pas comment sera brisée cette glace entre Dieu et lui. Donc, elle est figure d'une condition structurellement incertaine dans le mouvement même par lequel cette expérience s'affirme comme participant déjà d'un monde reconfiguré, reconformé au Christ. Et il y a là, à mon avis, un schème majeur pour ce que j'appelle, moi, comme sociologue, une approche compréhensive de l'expérience chrétienne qui est absolument fondamentale pour élucider toute une série d'aspects du rapport chrétien au monde. Et de ce point de vue-là, si je suis si reconnaissante à Giovanni, c'est parce que ce livre m'offre une matière que je n'ai pas, en ce qui me concerne, fini de ruminer.
Ben merci beaucoup à tous les trois, j'ai bien fait de venir. Et donc je vais peut-être commencer par réagir juste à ce qui vient d'être dit sur la torpeur de ses ancêtres et sur le fait s'ils sont à jamais en torpeur, effectivement, s'ils sont eux aussi un jour converti. La théologie de la résurrection dit que c'est la conversion des Juifs qui annonce la fin des temps, juste avant. Et au moment, entre autres, juste après la venue de l'Antéchrist, ce qui a fait qu'entre les Juifs et l'Antéchrist s'est fait un peu d'amalgame. Et que parfois, cette conversion, on a voulu l'accélérer pour accélérer la fin des temps. Et ça se passe très précisément à cette époque avec certains projets de réforme de l'Église. Après la séparation des protestants et des catholiques, l'Église devient plus petite, comme il le dit un historien que je cite, Ken Stowe. Et la réforme, la purification de l'Église, qui était peut-être un projet impensable et trop immense quand l'Église était coextensive de la chrétienté, devient possible. Alors ce qui se passe, c'est que les réformateurs de l'Église se posent la question de la conversion des Juifs. Donc, certains préconisent l'expulsion, pas encore les conversions forcées qui seront le fait de périodes successives. D'un autre côté, je crois que tu as parfaitement raison, rien oblige, rien autorise de penser que ces figures resteront à jamais inertes et dans la torpeur. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup en lisant la littérature existante, c'est qu'au XIXe siècle, on a écrit de ces figures que c'était du réalisme domestique. Du réalisme domestique que Michel-Ange avait fait les portraits des gens qu'il rencontrait dans la rue en allant de sa maison vers la chapelle Sistine, les gens qu'il voyait dans la rue et les aurait transportés dans la Sistine. Donc le mot réalisme est toujours compliqué et qu'il faut absolument l'éviter en histoire de l'art. Mais en même temps, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que ce ne sont vraiment pas les figures qu'il rencontrait, les personnages réels qu'il a rencontrés dans la rue, mais qu'il y a quelque chose d'un réalisme chrétien au sens où cette vision contemple l'inertie et la résistance, et que le fait de la laisser apparaître, parce qu'on aurait pu imaginer une chapelle Sistine toute athlétique, est toute destinée à la... À la à l'exaltation des corps des élus et des saints, et qui culmine dans la résurrection et dans la chute des damnés. Or, il y a cette partie-là qui laisse apparaître quelque chose qui, au fond, d'un certain point de vue, est réaliste, dans ce sens que les chrétiens ne sont pas tous des saints, et qu'ils sont peut-être plus ressemblants aux ancêtres qu'aux élus et qu'aux anges du jugement dernier. Il y a donc une place pour quelque chose de réalisme, je ne vais pas le garder ce terme, mais enfin, il y a une place a été faite, en tout cas, pas pour ces corps de femmes vraiment fatigués, pour une maternité qui n'est pas celle de Marie, mais qui est celle des vraies femmes. C'est fatigant, enfin, je le dis étant un homme, enfin, je sais que c'est fatigant. Et le soin et la vie quotidienne et la temporalité répétitive de la vie en famille, la fermeture dans la maison, toutes ces expériences sont des expériences dont on ne peut imaginer qu'elles sont proches, beaucoup plus proches que celles des élus qui volent. C'est quand même quelque chose. Et donc, ce que tu dis me touche parce que je pense que c'est tout à fait juste. Aménager donc une place pour cette situation du suspens, du sentiment de ne pas y arriver. Je voulais quand même vous le lire, le poème de Michel-Ange, si j'arrive pendant que je parle, parce que ça défile un peu lentement, où il se dénonce. Et c'est une tradition poétique qui remonte à Pétrarque. Dans les secrets, Pétrarque avoue ses doutes et sa tiédeur. Et Michel-Ange était un grand poète, c'était un poète pétrarchiste. Et il reprend cette idée d'être insuffisamment rapide. Et donc je vais vous la lire quand même, parce que c'était un très beau poème. Je l'avais relié dans cette présentation à la figure typique de l'hésitation, qui est Bella, quoi, qui se trouve en dehors du purgatoire de Dante. Et Dante l'approche et il rit. C'est l'une des rares fois où Dante rit dans toute la Divine Comédie, parce qu'il voit quelqu'un qui, il dit, mon doux Seigneur, regarde donc, jette les yeux sur cet homme qui a l'air plus indolent que s'il paraît c'était sa sœur. O dolce mio, o dolce signor mio, dissi ad occhi a colui che mostra sé più negligente che se pigrizia sua fosse serocchia. Et donc il lui demande, il le reconnaît parce que c'était un luthiste de Florence, il lui dit: qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres pas? Pourquoi toi tu restes dehors? Il convient que je reste dehors autant de temps que j'ai hésité à me tourner donc vers Dieu. Là, ce sont les dessins de Botticelli qui montrent un bel lac entouré d'autres inertes. Bellacqua, il faut le savoir, c'est pour cette raison que j'ai introduit aussi Beckett à la fin du livre, c'est le prototype de Stragon et Vladimir. C'est un personnage essentiel pour tout le théâtre beckettien, et il y a des pièces de Beckett qui s'appelle comme ça, Bellacqua. Et donc voilà ce qu'a écrit Michel-Ange. Je vous le lis peut-être en italien, si vous voulez. Vous arrivez à suivre en français. Vorrei voler, signor, quel ch'io non voglio. Ça, c'est une entrée en matière assez extraordinaire, hein, qui renvoie directement aux conversions d'Augustin, c'est-à-dire le moment où Augustin n'est pas encore converti. Vorrei voler, signor, quel ch'io non voglio, tra il fuoco e il cor di ghiaccio, un vel s'asconde, che il fuoco ammorse, onde non corrisponde la penna all'opre, et fa bugiardo il foglio. Donc je voudrais vouloir ce que je ne veux pas, entre les feux et les corps, des glaces, une voile se cache, que les feux éternels, que les feux éteints, la plume aux œuvres ne répond pas, et fait mentir la feuille. Donc il dit qu'il est en train de mentir lorsqu'il dit qu'il aime le Christ. Io t'amo con la lingua, je t'aime avec la langue. Et après, je me plains qu'amour ne giunge al cuor, donc je me plains que l'amour n'arrive pas jusqu'à mon cœur. E ne so ben onde apra l'uscio alla grazia che si infonde nel cor che scacci ogni pietato orgoglio. Donc il dit ne sait pas d'où cette grâce pourra passer, et puis c'est le final, il dit squarcia il velo, tu signor, rompi quel muro che con la tua durezza ne ritarda, et là le mot est important, c'est-à-dire avec la dureté de mon corps, retarde, encore le thème du retard, de différer quelque chose, il sol de la tua luce al mondo spenta, donc déchire le voile, et on voit dans la chapelle Pauline, vous avez peut-être en tête, c'est Christ qui convertit Saint Paul, qui vraiment il déchire les nuages, qui d'une certaine manière converti de violence Saint Paul. C'est pour ça que je dis que la relation à Saint Paul et au spirituel est très forte, vers une perspective plus statique et en tout cas d'une intervention violente et imméritée et présente. Il dit « Envoie à ta belle épouse, c'est-à-dire l'âme, la lumière promise qui doit venir pour nous afin que je m'enflamme. » Les cœurs libres des doutes et que toi seul je sente. Donc ce poème qui pour moi était important pour pouvoir imaginer, parce que c'est quelque chose que je ne pourrais jamais prouver, que Michel-Ange ait pu s'imaginer lui-même un Saint-Joseph, et donc il a pu s'imaginer, comme tu disais, dans cette condition de suspens et qu'effectivement n'est pas une position de doute ou de négation de l'existence de Dieu, ni du bienfait, des bienfaits du Christ. C'est simplement quelqu'un qui reconnaît une condition de négligence. Donc ça m'a beaucoup intéressé. J'étais aussi très intéressé par tout ce que le 19e siècle a fait du jugement dernier, et surtout du jugement dernier, parce que des ancêtres, je n'ai pas trouvé beaucoup de commentaires, sauf celui de Zola, qui, ce n'est pas un hasard, est contemporain du cas Dreyfus. Donc, c'est le cas Dreyfus qui a permis à Zola de voir les Juifs parmi les ancêtres, alors que l'histoire de l'art de cette période, il voit du réalisme domestique, mais la dimension sémitique disparaît complètement, comme elle disparaît aussi dans les années 40 des études d'iconographie qui, pris par cette obsession des noms, ne regardent pas vraiment les images. Alors j'étais aussi très sensible à la lecture qu'a fait Emanuele Coccia, très imagée et très puissante sur cette idée d'une comparution universelle. Et je suis vraiment très content d'entendre ça. Je pense que tu as mieux compris que moi. Alors, c'est peut-être juste au moins une réponse à une question qui m'a été posée et que je me suis posée. Qui fait un chapitre du livre et qui concerne quand même l'histoire de l'art, c'est-à-dire pourquoi, puisque cette affaire de ressemblance et de dissemblance quand même fonctionne à la fois visuellement, théologiquement et par rapport à la situation de cette époque, c'est moi, Giovanni Carelli, qui l'a vu en 2013. Et pourquoi ni les historiens de l'art, ni les théologiens de l'époque et les historiens de l'art d'aujourd'hui ne l'ont remarqué. C'est une manière de se poser la question qui est très paradoxale, hein, parce que c'est par la négative, et donc il faut imaginer une double cécité, une double censure d'une certaine manière, que j'ai essayé d'étudier dans un chapitre consacré à la manière dont... le premier historien de l'art moderne, d'une certaine manière, qui est Vasari, décrit cette fresque en exaltant tout le travail de mouvement, du raccourci, de la figure serpentine, et en détachant soigneusement tout ce mouvement du sens que cela peut avoir, c'est-à-dire la prise ou la perte de ressemblance, et in fine la question de la grâce et de son efficace. Et de l'autre côté, les théologiens, donc Giglio, qui écrit assez tôt, enfin un livre entier pour dénoncer les erreurs de cette fresque et les abus à partir d'une connaissance très précise de la théologie paulinienne, c'est-à-dire qu'il dit, voilà ce qu'il devrait y être. Il devrait y être de la ressemblance, il parle dans ces termes-là, sauf qu'il n'est pas en mesure de l'avoir, parce que les formes que Michel-Ange a choisies sont trop lointaines de ses habitudes visuelles, que l'idée que devenir serpentant, c'est devenir ressemblant, et que perdre ses mouvements et d'être comme capturé par un serpent, c'est la perdre. Il n'arrive pas à l'avoir, il n'arrive pas à l'avoir. Alors, ce n'est pas une affaire petite, c'est une affaire importante pour l'histoire de l'art, parce qu'elle se fonde sur cette bifurcation entre la théologie chrétienne de l'image, d'une part, qui continue de réfléchir et d'avancer à partir de Saint Paul, mais qui est incapable de voir les choix formels qui sont celles de Michel-Ange, et Vasal, qui, à mon avis, est aussi un peu trouillard, parce qu'au moment où il écrit, l'affaire est réglée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aborder le thème de la grâce sans risque. Le thème de la grâce a été l'objet d'une discussion. À un moment donné, il semblait possible qu'il y ait un compromis entre le parti catholique et le parti protestant qui n'a pas eu lieu. Donc on pourrait parler de la grâce quand Vasari commence à écrire son histoire de l'art seulement pour dénoncer la position des autres et pas pour admettre une position aussi complexe, d'une certaine manière intermédiaire, mais de mon point de vue plus orientée du côté réformé. Et donc se produit cette scission d'un discours d'histoire de l'art qui regarde les formes et qui ne comprend pas les contenus, et d'un discours de théologien qui regarde les contenus et qui est incapable de voir les formes. Donc les liens, personne ne l'a fait. Et le résultat n'est pas sans conséquence, parce que ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Parce que le jugement dernier, vous le rappeliez tout à l'heure, était l'objet d'une polémique violente. C'est la critique est née, au fond, à propos de cet objet-là. Elle s'est développée à partir de cet objet-là. Et quand Vasari écrit les vies, sa vision du jugement dernier influence toute la vision de l'histoire de l'art qu'il construit, qui est finalement, on pourrait dire, pour aller très vite, une histoire de l'art formaliste, c'est-à-dire attentive aux formes, attentive à l'audace des solutions plastiques, et assez aveugle par rapport à la relation que cette force entretient avec les contenus. Donc il y a tout un chapitre là-dessus, et je vous remercie de l'avoir un peu rappelé. On va laisser un peu la place pour des questions, avec plaisir.
Oui, moi ce qui m'a impressionné, c'est cette affaire de ce saturnisme, et la question qu'a posé Isabelle Saint-Martin, c'est-à-dire cette rupture dans le temps de ses ancêtres qui sont mis hors du temps. Et non, c'était juste une espèce d'analogie avec l'islam, où il y a effectivement le même phénomène de mise hors du temps des infidèles, et pas seulement des infidèles, également et les infidèles parmi lesquels on chasse les esclaves. Et ce temps d'avant l'arrivée, d'avant le message prophétique, induit aussi le fait que les esclaves, d'une certaine façon, sont les représentants de cette époque de la Jahiliya. Et cette époque de la Jahiliya, en fait, ils sont aussi symbolisés par des éléments, comment dire, quasiment géologiques. On dit... par des monuments, au sens de où les monuments racontent l'histoire d'avant le message, comme par exemple la porte de Marrakech qui porte le nom des muets, de ceux qui ne connaissent pas le nom de Mahomet, mais aussi comme des éléments géologiques, la montagne des ignorants de l'islam, etc., etc. Voilà, c'était juste une...
Merci beaucoup. Je peux répondre très très vite. Je suis très intéressé par ce que vous dites, parce que c'est C'est un peu comme ça que, c'est-à-dire les juifs après la révélation, c'est des anachronismes vivants. Et la figure du juif errant est un peu la figure. Mais enfin, ils appartiennent au temps d'avant. C'est aussi pour ça qu'ils sont vieux et fatigués, je crois. L'analogie est très, très, très suggestive aussi, peut-être parce qu'il y a, on n'a pas parlé aujourd'hui beaucoup cette dimension de la carnalité qui est attribuée à l'autre. Donc ce n'est pas que la vie selon la chair, c'est celle des juifs, parce qu'ils sont pris par leur loi, mais aussi, je dirais, en faisant un néologisme à partir de saint Paul, ils sont apérispatos, c'est-à-dire périspatos. En grec, ça veut dire ceux qui ont pour seul souci la prière et le salut. Et là, il y en a qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas l'envie de se tourner vers l'esprit. Et du coup, ils sont d'une certaine manière distraits par les soins qu'il faut apporter aux enfants. Alors, c'est la corporéité de ces figures que je voulais souligner un peu, parce que je n'ai pas fait suffisamment. C'est peut-être les seuls qui, dans la Sistine, ont une ombre, qu'ils ont cette grande fatigue. Alors, dans cet accent qui est mis aussi sur la vie biologique, par différence avec la maternité de Marie, alors il est évident que cette dimension charnelle est très complexe, parce qu'on ne peut pas attribuer à l'autre toute la chair, parce que la religion chrétienne est une religion de la chair. Donc c'est très subtil, toute cette affaire. C'est pourquoi je suis arrivé à la conclusion que ces figures sont plutôt là pour marquer une position, comme tu disais, dans un système, une position qui peut être habitée aussi par les chrétiens négligents, qui n'est pas forcément la position des juifs, de l'autre, mais aussi du chrétien en tant qu'il a un aspect juif.
C'est un peu paradoxal qu'on attribue à Michel-Ange ce souci de spiritualité opposée au corps, alors que c'est quand même cette époque où on a magnifié le corps et la matérialité du corps, l'épaisseur du corps, la vivacité des expressions, des sentiments. Et donc, je ne comprends pas cette interrogation sur le mauvais chrétien ou le chrétien qui vient juif parce que c'est le corps, c'est la torpeur, etc. Alors que toute l'histoire de Michel-Ange le place dans une période où justement c'est la redécouverte du corps, la matérialité de la science qui va émerger plus tard, qui est la base même de ce renouveau. Et donc on ne comprend pas très bien.
Non, je comprends que vous ne comprenez pas très bien parce que c'est compliqué, c'est pas simple du tout. D'une part, que Michel-Ange ait été profondément religieux, on peut dire, ou préoccupé par le Christ, en tout cas, si c'est plus simple comme ça. Toute son œuvre peinte et poétique le montre, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Après, les corps, quel corps, ça dépend. Vous avez des représentations qui font plutôt penser, surtout dans sa jeunesse, un rapport avec le néoplatonisme, c'est-à-dire qui a un rapport avec les corps qui est complexe, parce que l'amour charnel est contemplé. C'est le premier pas vers le monde des idées. Donc il y a des tas de manières d'intégrer les corps dans différents moments de l'histoire de cette peinture. Ce qui m'a intéressé, c'est que dans la Sistine, il y a des corps différents, il y a des corps idéaux, d'une certaine manière, qui vont vers l'incorporation sans entrave. C'est des anges. Hein, et puis d'autres qui se trouvent dans une situation intermédiaire, pouvant devenir ressemblant aux anges ou plutôt à l'animal. Ça, c'est la réponse générale que je vous donnerai. Mais par exemple, si vous pensez à une peinture comme celle du Titien, pour aller dans un autre sens et sur un autre plan, et vous regardez les corps de Michel-Ange, ce n'est pas la dimension plus sensuelle, mais certainement pas du côté de Michel-Ange.
Non, mais c'est simplement pour prolonger ce qui vient d'être dit. Ce qui me paraît fondamental, madame, c'est de bien comprendre que la dynamique qui est aux prises à ces représentations, c'est la dynamique du corps spiritualisé. On est vraiment au cœur de la problématique chrétienne, là. Et ce qui est fantastique, précisément, c'est qu'il ait pu saisir les choses dans un temps de transformation. C'est qu'on n'est pas basculé dans la réalité d'un jugement déjà opéré dans un premier temps. On est dans le processus lui-même. On est au cœur d'un processus du tiers chrétien. C'est-à-dire qu'il y a le risque de la chair pour elle-même. Et justement, cette concaténation qui nous ramène à la judaïté, c'est effectivement un risque dont on sent bien toute l'intensité. Et puis on passe à cette réalité qui est celle du corps spiritualisé. Voilà pour la raison qui fait qu'on peut exalter un corps qui est déjà autre chose que lui-même, puisqu'il arrive à cette complétude du tiers entre le corps et l'esprit.
C'est pour ça qu'il me semble que, plutôt que de mauvais chrétiens en l'occurrence, c'est plutôt de chrétiens inachevés. C'est l'inachèvement qui est en jeu, il me semble.
Non seulement de chrétiens inachevés, mais de sujets inachevés. C'est pour ça que je fais une référence à Montaigne, à l'idée de sujet de Montaigne, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut sans cesse construire, qui se défait. Et en cela, il y a un rapport entre la notion de sujet telle que Montaigne l'élabore et celle de Michel-Ange, du jugement, du moins, parce que pour le reste, c'est plus difficile.
Écoutez, je crois que...
Moi, je voulais juste prolonger ce que tu venais de dire à propos du premier chapitre, à propos de cette bifurcation, que la faute n'est pas seulement des historiens de l'art, la faute aussi, par exemple, des historiens de la théologie, qui ont la tendance à privilégier, par exemple, la réflexion écrite par des académiciens ou et qui ont la tendance à négliger totalement cette théologie par image qui s'est toujours faite dans l'histoire du christianisme et dont tu as montré en fait la pertinence et la valeur théorique en fait très forte. Et donc en tant qu'historien, on devrait recommencer à interroger cette pensée iconique qui est socialement en plus beaucoup plus importante que des affirmations faites par des sujets dans des salles d'université suivies par trois personnes ou quatre personnes. Donc, ça serait intéressant de réécrire une histoire de la pensée théologique aussi, en prenant toutes les sources et pas simplement les sources écrites.
On va les faire ensemble.
Écoutez, au nom des différents partenaires associés donc à cette conférence débat, je remercie vraiment très chaleureusement Giovanni Carreri, Emmanuel Ecoccia, Isabelle Saint-Martin et Daniel Hervier-Léger.